La religion est l'opium du peuple. Cette phrase célèbre de Karl Marx fait partie des déclarations que l'on entend parfois dans la bouche de certains détracteurs de la foi en général et de la foi chrétienne en particulier. Parmi les phrases choc de ce genre que l'on entend parfois, il y a aussi cette affirmation que la foi est une béquille pour les faibles. Les forts n'auraient pas besoin de Dieu, alors que les faibles auraient besoin d'en inventer un. Citons encore l'affirmation que la Bible n'est qu'une compilation de fables, ou encore que la Bible, ce n'est que des histoires de grand-mère. Dans la liste de ces déclarations choc, dénigrant la foi et les choses de Dieu, certains pourraient ajouter une autre affirmation qui pourtant sort de la bouche de Jésus. C'est une parole qui dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Une phrase qui peut facilement être mal comprise comme dévaluant les choses de la foi pour en faire quelque chose de simpliste. Je vous invite à lire le texte et donc de remettre cette phrase dans son contexte. C'est dans l'évangile de Luc. Je lis au chapitre 18, les versets 15 à 17. Luc chapitre 18, versets 15 à 17. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Jésus est en train d'enseigner et voilà que des parents lui amènent des petits-enfants. Je dis parents parce que nous avons dans le texte un pronom masculin qui montre que les pères sont également là. Le récit nous indique le but de cette démarche, puisque nous lisons que c'était « afin que Jésus les touche ».« Afin que Jésus les touche ». Les Juifs ont toujours valorisé la bénédiction d'un père, la bénédiction d'un prophète, la bénédiction d'un rabbin, de toute personne vénérable. Le Talmud, qui est le commentaire juif de la loi, nous dit que les Juifs avaient pour coutume d'amener leurs enfants à la synagogue dans ce but. Il se passait alors que le père imposait d'abord les mains sur la tête de l'enfant, puis il le conduisait vers les anciens qui, l'un après l'autre, le bénissaient et priaient. Priaient pour que l'enfant grandisse en étant érudit dans la loi, fidèle dans le mariage et abondant en bonnes œuvres. Si nous ne sommes pas ici dans ce texte, dans le contexte de la synagogue, nous sommes néanmoins dans une situation de bénédiction. Jésus est reconnu comme rabbi, comme maître, comme ayant autorité, et des parents lui amènent leurs enfants pour qu'ils les bénissent. Le texte parallèle de l'évangile de Marc dit explicitement que Jésus les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Des parents viennent donc à Jésus pour qu'ils les bénissent, pour qu'ils bénissent leurs enfants, mais voilà, les disciples ne sont pas d'accord. Ils ont d'autres projets pour Jésus. Et il s'interpose. Nous lisons au verset 15, « Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient, qui amenaient les enfants. » Et dans le texte parallèle de Matthieu, il est dit que les disciples les repoussèrent physiquement, qu'ils les repoussèrent. La question à se poser ici pour avancer dans la compréhension de notre texte est la question du pourquoi. Pourquoi les disciples ont-ils agi ainsi ? On peut émettre toutes sortes d'hypothèses. J'avancerai que il est sans doute possible qu'ils ont agi ainsi parce qu'ils voulaient, ou ils ne voulaient pas plutôt, que leur maître soit dérangé. Soit dérangé pour aussi peu de choses que ses petits-enfants. Il semblerait qu'aux yeux des disciples, Jésus ait eu des affaires bien plus importantes à régler que de s'occuper de petits-enfants. Pour bien comprendre la réaction des disciples, il est nécessaire de bien comprendre ce qu'était le statut social de l'enfant à cette époque. Et une chose est sûre, le statut social de l'enfant dans la société juive de l'époque n'était pas le statut social de l'enfant aujourd'hui, dans notre société occidentale et moderne. À l'époque, l'enfant avait certes l'affection de ses parents. Il était certes reçu comme une bénédiction de Dieu, mais il n'était pas, comme c'est très souvent le cas aujourd'hui, le pôle d'attention et d'activité de toute la famille. L'enfant contemporain de Jésus n'exprimait pas librement ses opinions. Ça n'existait pas. Il n'interpellait ni ne contredisait ses parents, ni aucune autre autorité d'ailleurs. Et même les jeunes adultes ne mettaient pas en doute les affirmations des anciens. Les temps ont bien changé. C'est cette même mentalité que l'on va par exemple retrouver dans le livre de Job, dans le discours qu'Éliou adresse à Job et à ses amis. Que dit-il ? Il dit « Je suis jeune et vous êtes des vieillards, c'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. » On parle aujourd'hui fréquemment de l'enfant roi, de l'enfant qui impose sa volonté à ses parents. Soyons sûrs d'une chose, l'enfant à l'époque de Jésus était tout sauf un enfant roi. Et dans notre texte, nous allons voir et nous voyons que Jésus va une fois de plus à contre-courant. Et c'est ainsi que nous allons le voir accepter comme important ceux qui ne l'étaient pas aux yeux de la société de l'époque. Et Jésus n'accepte pas l'attitude des disciples. Le texte de Marc, le texte parallèle de Marc, nous dit même que Jésus fut indigné par l'attitude des disciples. Il aime les enfants. Ils ont de l'importance à ses yeux. Il veut leur bien, il veut les bénir. Et c'est la raison pour laquelle nous lisons dans notre texte que Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. » Chers amis, quel privilège de pouvoir amener nos enfants en tant que parents, nos petits-enfants en tant que grands-parents, à Jésus, à Dieu par Jésus. Quelle joie de savoir que Jésus les aime, quelle joie de savoir que Jésus les accepte et qu'ils ont de l'importance à ses yeux. Alors bien sûr, nous ne pouvons plus venir physiquement à Jésus. Mais par la prière, nous pouvons le faire et nous pouvons les lui apporter. Ne nous en privons pas. Jésus ne se contente pas de dire aux disciples de laisser venir à lui les petits-enfants. Cet incident va être pour lui l'occasion d'enseigner une vérité fondamentale. Je reviens à notre texte. Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. Les paroles de Jésus sont fortes, c'est souvent le cas. Jésus affirme à ses disciples qu'à moins de ressembler à ses petits, que les disciples méprisent d'une certaine manière, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu, ne peut recevoir ou entrer dans le royaume de Dieu. Et j'aimerais ce matin que nous cherchions à comprendre le sens de ces paroles. Que signifie cette affirmation de Jésus ? En quoi devons-nous ressembler à des petits-enfants pour nous approcher de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être sauvés ? Avant de voir ce que Jésus veut dire, j'aimerais dire un mot sur ce que Jésus ne veut certainement pas dire. Si nous devons ressembler à de petits-enfants, il y a néanmoins des caractéristiques enfantines qui sont tout sauf à imiter. Il n'y a par exemple rien à imiter de l'immaturité des enfants. Il n'y a bien évidemment rien à imiter de leurs caprices. Il n'y a bien évidemment rien à imiter de leur désobéissance. Il est évident aussi qu'il ne s'agit pas, pour celle ou celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu, de retomber en enfance, ou encore de rechercher la perfection morale qu'auraient les petits-enfants. Je dis bien qu'auraient les petits-enfants parce que ce n'est bien évidemment pas ce que dit la Bible. La parole de Dieu est d'ailleurs tout à fait claire sur le fait qu'il n'y a pas de perfection morale chez le petit-enfant, aussi mignon soit-il. Nous sommes tous, dès la naissance, marqués par le péché que nous avons hérité d'Adam. David le dit très clairement au psaume 51. « Je suis, depuis ma naissance, dit-il, marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. » Non, il n'y a pas de pureté ou d'innocence chez le petit enfant que nous pourrions ou devrions imiter ou rechercher pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais alors, en quoi devons-nous ressembler à un petit enfant ? Qu'est-ce qui caractérisait ces petits enfants amenés à Jésus et qui doit se retrouver chez celle ou celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu ? Je vous propose trois réponses à cette question. Et la première, c'est que pour recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant, il faut n'avoir rien à faire valoir devant Dieu. Il me semble que la première des choses à considérer ici, devant cette question de la ressemblance à l'enfant, n'est pas une question de caractéristique de l'enfant, mais plutôt la question de son statut à l'époque de Jésus. Nous l'avons déjà évoqué. Dans la société antique, c'était pas seulement vrai en Palestine, hein, mais c'était vrai là en particulier, l'enfant était celui qui n'avait pas de pouvoir, aucun pouvoir, celui qui n'avait d'ailleurs pas de statut et qui dépendait entièrement de ses parents. La réaction des disciples nous a montré qu'ils ne considéraient pas les petits comme suffisamment importants pour importuner Jésus. En ce temps-là, l'enfant n'avait pas de statut à faire valoir. Il n'existait pas encore la déclaration des droits de l'enfant. L'enfant avait essentiellement des devoirs. Et il prenait et recevait, il me dirait, il n'avait pas le choix, mais en toute simplicité et en toute humilité, ce qui lui était donné. Et c'est ainsi que Dieu veut que nous recevions le royaume de Dieu. C'est ainsi que Dieu veut que nous recevions son salut, en toute simplicité, en toute humilité, sans aucun statut à faire valoir, sans mérite aucun à présenter, en acceptant simplement le don de Dieu. Ce n'est certainement pas un hasard si Luc, dans son évangile, place ce récit tout de suite après le récit très connu de la parabole du publicain et du pharisien, ou du pharisien et du publicain. Vous connaissez très certainement l'histoire. Le pharisien est persuadé d'être juste devant Dieu. Et il vient à Dieu avec toute sa propre justice. Il a quelque chose à faire valoir devant Dieu. Souvenez-vous, le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Ça, c'est le pharisien. Le publicain, lui, n'a pas grand-chose à reconnaître. En tout cas, il reconnaît qu'il n'a rien à mettre à son actif, rien à faire valoir. Il se sait pécheur et il sait que seule la grâce de Dieu peut le justifier. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Quel regard Jésus porte-t-il sur ces deux hommes de cette parabole? Il va dire que c'est le publicain qui va rentrer chez lui justifié. Eh bien, je vous le dis, c'est celui-ci, le publicain, qui redescendit chez lui justifié plutôt que celui-là, le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Je vous disais que ce n'était certainement pas une coïncidence si ces deux textes se suivent dans l'évangile de Luc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une même leçon en commun. À savoir que c'est les mains vides que l'on est justifié devant Dieu. C'est les mains vides sans rien à faire valoir, à l'instar de ces petits-enfants de l'époque, que l'on entre dans le royaume de Dieu. C'est simple, mais pas simpliste. C'est simple et c'est souvent cette simplicité-là qui dérange notre ego. Notre ego qui n'aime pas être redevable à qui que ce soit. C'est simple. Et ça s'appelle la grâce de Dieu. Cadeau de Dieu pour nous qui ne méritons rien. Cadeau de Dieu pour nous qui ne pouvions rien acquérir par nos mérites, quels qu'ils soient. Ce que nous venons de dire sur la grâce et les mérites n'est pas seulement vrai pour le salut, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est aussi vrai pour y vivre jour après jour. Et nous qui sommes entrés dans le salut que Dieu nous offrait, nous devons veiller à rester dans ce même état d'esprit tout au long de notre cheminement. Ce même état d'esprit qui sait qu'il n'a rien à faire valoir devant Dieu. Ce même état d'esprit qui sait que tout est grâce. Chaque instant de chaque jour. Et vous savez qu'au fil des années de la vie chrétienne peut parfois apparaître le danger sournois des mérites. Pas les mérites du salut. Nous avons réglé cette question une fois pour toutes, très certainement. Nous savons que ce n'est pas par les œuvres, mais par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Nous sommes au clair là-dessus. Les mérites que nous pouvons être tentés de faire valoir devant Dieu sont ceux de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous sommes devenus, de tout ce que nous avons fait et faisons pour le Seigneur dans notre vie chrétienne. Et il est alors si facile de finir par croire que Dieu nous doit quelque chose. Il est si facile d'être tenté de faire valoir les mérites de notre obéissance, quelle qu'elle soit. les mérites de notre fidélité, les mérites de notre expérience, les mérites de toutes ces années de bons et loyaux services, les mérites de tous les sacrifices que nous avons faits et faisons pour le Seigneur. Chers amis, il y a parfois un danger qui peut nous guetter. C'est celui de croire, de finir par croire que Dieu nous est redevable de quelque chose. C'est celui d'oublier que tout est grâce. C'est vrai pour entrer dans le royaume de Dieu et c'est vrai pour y vivre jour après jour. Que Dieu nous garde d'oublier cela. Que Dieu nous garde d'oublier que tout est grâce, même nos réussites, s'il nous a fait grâce d'en avoir, même nos victoires, même notre fidélité, même et surtout tout ce que nous penserions pouvoir faire valoir devant Dieu. N'oublions jamais que tout est grâce. N'oublions pas que pour entrer dans le royaume de Dieu et pour y vivre, il faut être et rester devant Dieu comme un de ses petits-enfants qui n'avait rien à faire valoir devant Dieu. Faire rien à faire valoir. Point. Nous arrivons à la deuxième réponse que je vous propose. Pour recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant, il faut se placer sous la dépendance de Dieu. Après le statut de l'enfant dont nous venons de parler, je crois que la caractéristique principale du petit enfant qui nous est nécessaire de posséder pour entrer dans le royaume de Dieu et pour y vivre, c'est la dépendance de Dieu ou à Dieu. Le petit enfant, lui, il est complètement dépendant de ses parents. Tout ce qu'il a, il le reçoit de ses parents. La nourriture, le vêtement, la protection, l'amour, etc. Je parle bien de petits enfants, parce que c'est de cela dont il s'agit dans notre texte. Ces enfants étaient suffisamment petits pour que Jésus les prenne dans ses bras, comme le souligne le texte de Marc. Et le petit enfant, le tout petit enfant, a absolument besoin de ses parents. Il est entièrement dépendant d'eux. Il n'y a pas de vie possible pour le petit enfant si ses parents ne s'occupent pas de lui. Et en venant à Jésus, nous devons ressembler à ces petits-enfants dans leur dépendance à leurs parents. Soulignons en passant que la dépendance n'est pas quelque chose qui s'acquiert une fois pour toutes. C'est plutôt quelque chose dans laquelle nous grandissons, dans laquelle nous nous affermissons. C'est quelque chose que nous construisons jour après jour. C'est quelque chose que nous cultivons dans notre relation avec le Seigneur, dans notre marche avec lui. La dépendance à Dieu, ça s'apprend. Soulignons aussi que vivre sous la dépendance de Dieu est quelque chose pour l'homme naturel que nous avons tous en nous, tout sauf évident. C'est tout sauf évident parce que notre nature pécheresse, il y a beaucoup de synonymes pour dire cette nature pécheresse, notre nature en Adam, notre vieil homme, notre chair, tout cela, c'est la même chose, est foncièrement indépendant vis-à-vis de Dieu. D'ailleurs, l'indépendance vis-à-vis de Dieu, c'est l'essence même du péché. C'est dans un élan d'indépendance qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu. En désobéissant à Dieu, ils ont cherché à s'affranchir de lui, à s'affranchir de sa parole et de ses commandements. Adam et Ève ont voulu être indépendants. Ils ne voulaient plus avoir de compte à rendre à Dieu et ils ont coupé le cordon ombilical qui les reliait à leur Créateur. Comme représentant légal de l'humanité, Adam nous a alors légué à tous, à chacun, cette nature pécheresse. Nous avons tous hérité de lui une indépendance vis-à-vis de Dieu. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons revenir à cette relation perdue dans le jardin d'Éden. Nous devons revenir à une relation de soumission à Dieu. Nous devons renoncer à notre indépendance et nous placer sous la dépendance de Dieu. Ici aussi, ce que nous venons de dire n'est pas seulement vrai pour entrer dans le royaume de Dieu, mais pour y vivre jour après jour. C'est en acceptant de se soumettre à Dieu que nous entrons dans le royaume de Dieu, mais c'est aussi de cette manière que Dieu désire que nous y vivions jour après jour. Alors concrètement, comment vivre cette dépendance, cette soumission à Dieu au quotidien ? Il y aurait beaucoup de choses à dire, je vais être synthétique. Vivre sous la dépendance de Dieu, me semble-t-il, c'est avant tout vivre de sa parole. Vivre de sa parole. Ce n'est pas juste croire en Dieu, c'est croire Dieu. Croire ce qu'il dit et vivre de sa parole, vivre de ses préceptes, vivre de ses commandements, vivre de ses promesses. C'est ça être dépendant vis-à-vis de Dieu. C'est placer au cœur de ma vie ce que Dieu dit pour en tenir compte et en vivre jour après jour. C'est cela dépendre de Dieu. Et nous pouvons rejoindre cette belle parole que nous connaissons qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça, quand la parole est au cœur et que nous vivons de cette parole. Vivre sous la dépendance de Dieu, c'est comprendre que Dieu m'aime et qu'il a un projet d'amour pour moi. Et fort de cette compréhension, je fais le choix de l'obéissance. Je fais le choix de l'obéissance jour après jour, parce que je sais que Dieu veut mon bien. Je fais le choix de la confiance, parce que Dieu a promis de prendre soin de moi. Nous valons bien plus que les oiseaux du ciel. Nous valons bien plus que les lys des champs. Et vous connaissez cette parole de Jésus dans Matthieu. Et pourtant, Dieu prend grand soin d'eux. À combien plus forte raison ne s'occupera-t-il pas de ses enfants ? Pour entrer et vivre dans le royaume de Dieu, nous devons nous placer sous la dépendance de Dieu, comme un petit enfant dépend de ses parents. Nous arrivons à la troisième et dernière réponse qui enchaîne ce que nous venons de dire. Pour recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant, il faut troisièmement mettre sa confiance en Dieu. Le petit enfant fait totalement confiance à ses parents. Pour ceux qui ont eu des enfants, c'est même quelque chose de très beau. Sa confiance est totale. Ce que papa et maman disent, c'est la vérité vraie. Si vous prenez un petit enfant et que vous le placez en hauteur, vous vous mettez devant lui et vous lui dites « saute » en lui tendant les bras, qu'est-ce qu'il va faire ? Il vous fait confiance. Il saute et vous le rattrapez. Il fait totalement confiance à ses parents. Et je crois que ce qui caractérise le plus le petit enfant après la dépendance dont nous venons de parler, c'est la confiance totale qu'il a en ses parents. Le petit enfant croit ses parents de tout son cœur. Après, en grandissant, ça se complique un peu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons ressembler, dit Jésus, à de petits enfants. Et nous devons placer notre confiance en Dieu. C'est quand nous donnons foi aux paroles de Dieu que nous sommes sauvés. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est quand nous croyons ce que Dieu dit que nous sommes placés par la foi dans le salut. C'est ainsi que nous entrons dans le royaume de Dieu et c'est ainsi que nous devons y vivre. Y vivre dans la confiance, y vivre dans la confiance aux promesses de Dieu, y vivre dans la confiance que les voies de Dieu sont toujours les meilleures pour moi. Y vivre dans la confiance, même et surtout, quand nous ne comprenons pas ou plus les voies de Dieu. Y vivre la simplicité de la confiance d'un enfant envers ses parents. Ceci dit, vous le savez comme moi, il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien, peut-être un petit peu moins quand c'est plus difficile. Vous connaissez peut-être l'histoire de cet homme qui marchait au bord d'une falaise, abrupte, et qui regarde autour de lui et à un moment donné se penche un petit peu pour voir le vide qui est à ses pieds. Mais voilà, il se penche un peu trop et il glisse. Il glisse, mais heureusement pour lui, avant le grand vide abrupt, il y a quelques mètres de pente un peu plus douce sur laquelle il y a deux, trois buissons rachitiques qui résistent au fort vent de cette falaise. Et notre homme parvient de justesse à attraper un de ces petits buissons. Et le voilà qui pendouille les pieds dans le vide de ce précipice. Il est en bien mauvaise posture. Reprenant ses esprits, que fait-il ? Ben, il se met à appeler à l'aide, espérant que quelqu'un va passer par là et entendre son appel au secours. Au secours, au secours, y a-t-il quelqu'un pour m'aider ? Il tend l'oreille. Le silence de la nature dans toute sa beauté. Alors il recommence. Et il recommence, il s'époumonne à appeler à l'aide. Et à un moment donné, il entend une réponse. Il entend une voix qui lui dit, « C'est moi, Jésus. Je suis là pour te secourir. » Ouh ! L'homme est tout d'abord soulagé. Puis après, il réfléchit un petit peu et il replace devant lui la difficulté de la situation et la crainte remonte en lui. Mais la voix continue, Jésus continue et lui dit, « Aie confiance, aie foi en moi. Laisse-toi aller, lâche le buisson. Laisse-toi tomber, je vais te rattraper dans mes bras. » Il s'ensuit alors un long silence. Notre homme réfléchit. Et puis finalement, au bout de quelques instants, il s'écrie, « Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui pourrait m'aider ?» Alors c'est bien évidemment une histoire inventée de toutes pièces, hein, qui n'est pas très réaliste, mais qui a le mérite de mettre en évidence quand même quelque chose qui se passe parfois dans notre vie. Et je crois, en tout cas je sais que c'est vrai pour moi, et je pense que c'est vrai pour beaucoup d'entre nous, parfois nous ressemblons à cet homme. Parfois le choix de la confiance à Dieu, en Dieu dans notre vie, n'est pas le plus facile à faire. N'est pas le plus rationnel non plus, n'est pas le plus évident et certainement pas le plus rassurant. Et parfois, alors même que nous croyons, il ne s'agit pas de mettre en doute cela, parfois même alors que nous aimons le Seigneur, ça aussi on ne le remet pas en doute, nous doutons. Et nous sommes tentés de placer notre confiance ailleurs que dans le Seigneur. Parfois, c'est tout simplement dans nos propres forces, hein, mais il y a tellement d'autres possibilités. Il est facile de croire que Dieu prend soin de nous quand tout va bien. Et il faudrait nuancer, hein, parce que parfois, c'est aussi là que nous nous laissons aller. Mais qu'en est-il dans la difficulté, dans l'épreuve, quand les apparences sont contraires, quand nous sommes fatigués? Qu'en est-il quand nous sommes accrochés à notre buisson rachitique, au bord du précipice de nos vies, et que nous sommes si fragiles? Comme pour la dépendance, la confiance, c'est un cheminement. Ce n'est pas quelque chose que nous acquérons une fois pour toutes. C'est quelque chose que nous construisons au fil de notre marche chrétienne. C'est quelque chose que nous cultivons, c'est quelque chose que nous apprenons jour après jour. Et nous l'apprenons au travers de nos victoires comme au travers de nos défaites. Nous l'apprenons au travers de nos moments de confiance comme au travers de nos moments de doute. Dieu nous appelle à grandir dans la foi, dans la confiance en lui. Je reviens aux petits enfants, et vous avez certainement déjà vu ces petits enfants qui sautent dans les bras de ses parents, hein, quand il est placé en hauteur. On a certainement tous aussi pu assister à la réaction d'un petit enfant confronté à une difficulté, à un obstacle. Que fait-il très souvent? Il se tourne vers ses parents, vers son père, vers sa mère, vers les deux s'ils sont là. Il les regarde. Il cherche leur regard, il cherche leur soutien, il cherche leurs encouragements. Et fort de cela, il relève le défi et il s'attaque à l'obstacle. Voilà la confiance à laquelle Dieu nous appelle. Cette confiance du petit enfant. Oui, pour entrer dans le royaume de Dieu et pour y vivre, il faut mettre sa confiance en Dieu, c'est-à-dire en sa parole, en ses promesses. Et il faut le faire avec la simplicité. Ce n'est pas du simplisme, mais avec la simplicité de l'enfant qui se confie, du petit enfant qui se confie en ses parents. Que le Seigneur nous y aide chacun, où que nous soyons dans notre cheminement. Certains ont déjà de longues années, d'autres sont au tout début du chemin. Peu importe, nous avons toujours besoin d'apprendre et de réapprendre cette confiance à laquelle le Seigneur nous appelle. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.